SCL l'équipe.
Croisé courte gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour Carrément Tennis, une heure d'actualité de la petite balle jaune en compagnie de tous nos spécialistes. Après 2-3 jours de repos et une quinzaine éprouvante à Roland-Garros, nous allons bien sûr revenir sur cette édition 2011 des Internationaux de France. Et la victoire, une nouvelle fois, la sixième de Rafael Nadal, l'Espagnol, en finale face à Roger Federer. Nadal qui égale le record de Borg à Roland-Garros, 6 victoires, 10e grand chelem pour l'Espagnol à 25 ans. Seulement tournoi pénible pour lui, mais victoire quand même au bout face une nouvelle fois donc à Roger Federer. L'autre belle surprise de cette quinzaine de Roland-Garros, une nouvelle finale pour Roger Federer avec notamment cette victoire sur Novak Djokovic en demi-finale. Le Serbe invincible est tombé après 41 succès consécutifs. Il ne battra pas le record de McEnroe et surtout, il ne sera pas encore. Ça va venir numéro 1 mondial. Il devra patienter un petit peu. Chez les filles, première victoire asiatique de l'histoire d'un grand chelem avec Nali, 29 ans, qui bat la tenante du titre, Francesca Schiavone. Et on va parler de ça et aussi du retour, enfin tant attendu, des sœurs Williams. C'est pour Eastbourne la semaine prochaine avant Wimbledon. Et Serena et Venus seront là toutes les deux. Enfin, une bonne nouvelle dans le tennis féminin. Une mauvaise, en revanche, c'est que les rapports entre Ravan Reza et son papa ne vont pas s'arranger, puisqu'Aravan a porté plainte la semaine dernière contre son papa. Arsalan, on y reviendra aussi dans la deuxième partie d'émission.
Like RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Alors avant de vous faire revivre le meilleur de cette quinzaine de Roland-Garros et notamment de la finale, je salue d'abord tous mes acolytes. Carole Bouchard, bonjour.
Bonjour à tous.
Djokovic n'a pas gagné Roland-Garros.
Ah, il était pas loin.
Dommage pour vous, on comprendra mieux pourquoi tout à l'heure. Julien Varlet, l'homme qui a passé plus de temps en soirée pendant Roland-Garros. Car Roland-Garros, non, c'est pas vrai. C'est simple, il a passé à 8h le matin, il était à Roland-Garros, et le soir, il y était jusqu'à très tard. Ça va ?
Moi, je l'entends pas, Julien.
On n'entend pas, Julien ?
Non, on
n'entend
pas.
On n'entend pas, parlez fort, Julien.
Non,
on n'entend pas, Julien. Il y a un problème avec le micro de Julien. Ah, il est rouge, mais on vous entend pas bien. On va voir ce qui se passe. Émilie Loi, qui elle aussi a commenté toute la quinzaine chez nos confrères d'Eurosport, est avec nous. Salut, Émilie.
Salut.
Vous êtes régalé.
J'ai cru que t'allais dire, elle a passé
ses nuits quinzaine en soirée.
Non,
vous pouvez pas.
Non, elle a pas marché. De toute façon, elle a roulé. Elle roule.
Oh là là.
Et vous avez donc entendu sa douce et mélodieuse voix.
Ouais.
Si vous ne savez pas qui est ce garçon, c'est parce que ça fait plusieurs semaines que vous ne l'avez pas entendu.
Vous n'étiez pas assez bien
pour lui.
Monsieur Orange Juice nous fait la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui. Nous existons encore
il
à ses yeux.
Non, mais voilà, là je suis en vacances, je viens.
Bonjour, Benoît Melin.
Toi, c'est moche, tu vois. Tu es en vacances, tu viens. C'est que tu bosses, tu peux prendre 2 heures.
Ah non, je ne peux plus maintenant.
Il y a un melon.
Je n'ai plus.
Vous savez quoi ?
Il rentrait même pas dans la cabine du central tellement.
Ce qui fait la différence entre les autres et Benoît.
Ah là là.
Alors avant que nous rentrions dans les détails de ce Roland-Garros 2011, je vous propose un petit comeback sonore sur cette finale et sur les éléments de la finale de ce Roland-Garros 2011. Benoît, vous avez 2 minutes pour partir, sinon vous êtes bloqué en studio.
Allez, Nadal au service. La deuxième balle, elle est bonne. Le retour de Federer. On est parti dans l'échange. Attention, Federer, c'est dehors, c'est fini. Rafael Nadal gagne au 6e Roland-Garros. Il est à genoux. Il se prend la tête à deux mains, Rafael Nadal. Il est heureux. Il a tellement souffert pour gagner ce Roland-Garros 2011. Victoire 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 en 3h40. Rafael Nadal rejoint Bjorn Borg avec 6 couronnes à Roland-Garros.
Bonjour. First of all, just congratulate Roger for this fantastic tournament. I think you did very, very well. You played fantastic during both weeks. Sorry for today. I think we played a good match, and you know, sorry for that. And well done to his team.
Je voudrais féliciter encore une fois Roger. Bravo, un grand match. Désolé pour aujourd'hui, et puis félicitations encore aussi à son équipe.
Quiero dar las gracias a todo el público, todo el mundo que hace posible este torneo.
J'ai vu Borg quand j'étais jeune. Et Borg, il était vraiment incroyable. Il est un joueur extraordinaire. Mieux que Rafael.
C'est vrai que le match, il était dur avec beaucoup d'occasions ratées, mais honnêtement, c'est toujours comme ça quand tu perds contre Rafa. Tu as toujours eu des occasions pour faire mieux parce que il te laisse jouer quand même, il te frustre un peu, normal, parce qu'il défend très bien. Mais en même temps, j'aime bien jouer contre lui, on attaque tout le temps. et quand même que la victoire ou la défaite est dans ma raquette parce que c'est moi qui fais un peu plus que lui, mais il a aussi raison de jouer comme il est espagnol à la fin de la journée. C'est comme ça qu'ils apprennent à jouer au tennis, de faire une faute de moins que l'autre, ou peut-être moi j'ai grandi différemment que lui.
Y especialmente, merci beaucoup à tout le public pour le support durant le tournoi. C'est très important pour moi. So, merci beaucoup et l'année prochaine.
À l'année prochaine et en français pour Rafael Nadal, vainqueur donc de Roland Garros 2011. Mon cher Julien Varlet, vous l'aviez annoncé et bien avant le début du tournoi. Moi aussi, donc nous restons très proches sur le même micro aujourd'hui. Nous nous éloignons des autres.
Bon, hein, mais... Julien. Bah après, moi, par rapport au match très dur qu'il a pu avoir contre Isner, il est tellement passé très près et sa qualité n'était pas terrible. Mais c'était aussi à cause de John Isner. Pour moi, il allait jouer de mieux en mieux. Donc voilà, je pense qu'il était dans la lignée. En plus, jouer Roger Federer, je pense que voilà, Roger ne peut pas le battre à Roland-Garros, tout simplement.
Ouais, ah, il était peut-être pas si, un peu moins loin qu'en tout cas en 2008 où il avait marqué 4 jeux.
Je pense que pour lui, c'était encore plus terrible parce que là... Et on avait l'impression que c'était le Rafa le plus prenable qu'il aurait jamais en face de lui sur terre. Et même là, tu sens que c'est pas dans le tennis, c'est dans la tête. Parce que le premier set, on ne fera pas croire que, ok, Nadal, il s'accroche, mais il y a un blocage qui est énorme, Federer contre Nadal dans la tête. Il y a un blocage énorme.
On va y revenir. Nadal, prenable peut-être cette année, c'est vrai, Emily, mais après, à partir des quarts quand même, Söderling, Murray.
Il a bien joué Söderling.
Et la finale, les trois matchs, c'est quand même plus le même Nadal qu'en première semaine. Donc, on retrouve un petit peu, peut-être pas aussi flamboyant qu'en 2008, mais on retrouve le vrai bon Nadal quand même.
Oui, prenable sur les premiers tours, mais injouable en finale. Enfin, pour moi, face à Federer en finale, il n'y avait pas
Federer.
Photo. Pas photo, c'était, enfin, pas sûr, mais pour moi,
oui.
Il peut pas, Federer ne peut pas battre Nadal, ça c'est une certitude. Et, de toute façon, ça va presser à demi, il préférait jouer ça. Federer que de jouer Djokovic. Mais c'est clair qu'au début, il était prenable, et à la fin, enfin, surtout en finale, pour moi, en finale, il a joué...
Premier set 5-2 quand il passe devant,
ouais,
tu verras 6-5 dans le
ouais, mais 6-5.
Bah, c'est même pas 5-2, j'ai envie de vous dire, c'est 3-0. C'est-à-dire que les trois premiers jeux, Nadal, c'est clair.
5-2, balle de 7, 5-3, il sert pour le 7. Il passe devant dans le deuxième 6-5, et de 6-5 jusqu'à la fin du tie-break, il met pas un coup droit dedans.
Ouais, donc, mais il peut pas tenir le rythme.
Voilà, aussi, mais à mon avis, il y a plus que le tennis entre eux. Et c'est normal, l'ascendant psychologique, il est énorme. Hein,
alors, on banalise, c'est une sixième victoire à Roland-Garros, Benoît Mélin, en 7 participations. Sixième victoire en autant de finales à Roland-Garros, record de Borg égalé. Voilà, c'est le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, point barre, quoi.
Attends le septième.
Pourquoi tu me lances sur Nadal, t'es malade ou quoi?
Bah, parce que vous allez parler de tout aujourd'hui.
Mais Nadal, écoute,
ouais,
le Suisse était
ouais,
à ça,
ouais,
objectif.
Ouais, Nadal,
mais moi, je pense
Nadal,
quand même qu'il était
prenable. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que c'est le meilleur, c'est les plus forts que tout. Ouais,
ah,
mais...
ça t'arrache les boyaux,
ah,
ça.
Ah, hein. ça m'arrache, parce que... Voilà, il renvoie.
Mais non,
Roger, tu nous fais une Roger en conférence de presse, ouais, qui a été mythique.
Roger, il est mythique quand il dit ouais, ben voilà, le mec, il a grandi à renvoyer la balle une fois de plus que les
non,
autres.
Non, il a dit pire que ça, il a dit oui, il a un seul point.
Alors, je vais
jeu
te donner un seul exemple pour te montrer que cette théorie ne tient pas et qu'elle est de mauvaise foi. Je te donne un exemple.
C'est
début.
C'est les époques Bruguera.
Écoute-moi.
Tu veux pas comparer Nadal à Bruguera?
Écoute-moi. Début du quatrième set de la finale de Roland-Garros 2011. Federer vient de gagner un set 7-5 alors que Nadal a mené 4-2. Et là, premier jeu du quatrième set.
Après, tu peux y aller.
Attends, laisse-moi
point.
Finir. 0-40.
Jamais contre Nadal.
0-40 au début du quatrième set sur le service de Nadal. Et là, que se passe-t-il?
Je sais pas.
Revers gagnant, coup droit gagnant. Ace de Nadal pour revenir à 40 ans, il gagne le jeu, le match
mais
est fini.
Moi,
donc ne me dites pas
que
Nadal ne fait que renvoyer une fois de plus la balle que l'adversaire, c'est totalement faux.
Je suis complètement d'accord, même si je trouve que le Nadal de la saison dernière était peut-être plus agressif que là, mais c'est normal parce que quand il est moins en confiance, il recule. Et le dernier jeu du match, je suis d'accord, le 0-40, plus le dernier jeu du match, c'est peut-être le seul moment où il a été un peu plus relâché. Mais je comprends la déception, honnêtement, de notre ami Orange Juif, parce que moi j'ai vraiment l'impression que sur cette finale.
Ami, depuis qu'il nous snob.
Moi, j'ai quand même l'impression que sur cette finale, le Rafa, il sait qu'il va battre Federer de toute manière. J'ai même pas eu l'impression qu'il soit à 100%, qu'il joue à son tennis à 100%. C'est pas la peine contre Federer. Il a le plan de jeu qui va le mettre complètement hors du coup. Et dès qu'il a une occasion, il se rate de toute manière, le Suisse.
Oui, mais on a beaucoup parlé du plan de jeu. Alors, le plan de jeu, c'était simple.
Oui.
C'était pilonnage en règle du revers et compagnie.
Mais
Julien, moi, pour cette finale 2011, j'ai pas trouvé qu'il y avait justement un archi-pilonnage du revers. J'ai pas trouvé que Federer a énormément énormément craqué sur ce coup-là. C'était un petit peu un scénario différent des matchs d'habitude sur terre entre Nadal et Federer.
Ouais, mais dans l'absolu, Federer utilise quand même énormément le revers recouvert et quand la balle te monte une fois, deux fois, trois fois, quatre
ouais,
fois,
mais tu plutôt pas bien dans cette finale.
Mais
ouais,
mais
c'est pas. Mais voilà. Moi, je voilà, la seule solution, c'est qu'il faut que Roger ait un revers à deux mains pour battre Nadal sur terre. C'est y a que ça. Ouais.
Parce
que
pas,
non.
Non, puis pour taper
même
en droit,
parce que moi, pendant 5-7 tu peux
c'est
pas.
C'est impossible.
Faire ça.
Alors moi, j'ai juste une question parce que je trouve aussi qu'il a mieux tenu en revers que d'habitude. Est-ce que c'est parce que il a bossé comme un taré avec Anacone ou est-ce que c'est que le coup droit de Rafa part un peu moins bien qu'avant, du coup il est moins gêné. Moi j'ai trouvé aussi qu'en revers, il a pas autant fait de bois que.
Il a pas explosé en revers Federer sur cette finale.
Je me demande, est-ce que c'est pas le coup droit de Nadal qui part moins?
De toute façon, c'est... moi j'ai.
Il a pas fait 42 bois comme il fait d'habitude.
Comparé à 2008.
Au Nadal de l'année dernière, ça va moins vite, ça c'est sûr. Mais bon, après.
Ouais, non, mais attendez, les enfants, c'est quand même un tournoi sur 15 jours. Peut-être que le mec, il peut être un peu moins en forme.
Ah, mais je viens la preuve.
Voilà.
Mais justement, c'est la preuve de la marge qu'il a sur Federer. C'est que même en étant.
Mais cela dit, sur tout le monde, je vois pas où est-ce que vous avez eu de l'angoisse, quoi. Non mais à aucun moment tu peux t'imaginer qu'il va perdre contre Isner. C'est encore une fois c'est ces joueurs qui l'angoissent, la Karlovic et Isner, ça, d'où ça sort encore
ouais,
ça.
Non mais non. Non la seule angoisse c'était éventuellement jouer Djokovic en finale.
Qui perd de 7
contre. Je pense qu'il peut dire un grand merci honnêtement à Roger Federer d'avoir
fait Djokovic. Le mec en jouant en marchant, il est bas ces mecs. Alors,
il a gagné tout en 3-7 à part le
premier jour. Il se trimballe
en jouant
4 la finale mais.
Oui
c'est pareil.
Mais moi ce que je trouve encore un peu plus impressionnant c'est que voilà, c'est que tout le monde dit ouais Nadal il a pas bien joué mais on entend les donc voilà et puis je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Federer a pas forcément craqué côté revers. Quand on regarde la totalité de ses erreurs, je pense qu'il y en a plus de 60-70% qui sont côté revers.
Non, justement c'est quasiment, alors pas tout à fait, mais c'est quasiment 50% coup droit revers, quasiment.
Mais pour moi, où il est le meilleur, c'est quand il utilise... Merde, il m'énerve ce micro. Quand il utilise ce slice...
Évitez de jurer.
Le slice, ça a gêné Djokovic, mais pour moi, son slice est incroyable, mais contre Nadal, il le gêne pas assez, parce que l'autre, en plus...
Il laisse du temps, Nadal.
Non, puis le fait de jouer ce slice sur un gaucher, le revers slicé est annulé par la patte de gaucher de Nadal, donc au contraire, ça devient un coup encore avec plus d'angle. Je sais pas,
Émilie
pourra le dire
lui,
en tant que gauchère, quelqu'un qui vient aussi slicer sur votre coup droit en tant que gaucher, vous trouvez encore un peu plus d'angle. Donc, mis à part avoir un verre à deux mains, je vois pas ce qu'il peut faire pour battre Nadal sur terre.
Bah, l'agresser peut-être un peu plus aussi.
C'est pas un casse-tête sans fin. Je pense qu'il a totalement abdiqué. Il a,
oui,
il a Nadal
sur
terre.
Quand tu vois la fin, il est pas, tu vois, en Australie, il pleure, il est dans le trou là. Tu te sens pas tant.
Là, il sait qu'il a essayé.
Il a essayé un set en lui mettant la pression. Il a pas, peut-être que voilà, c'est l'usure aussi, mais il trouve qu'il il rentre pas dedans quoi. Il ne rentre pas dedans.
Non, mais ce qu'il faut se mettre quand même dans l'esprit, c'est que physiquement, il peut pas. C'est pas humain, ce serait pas humain. Bien évidemment que normalement il doit gagner le premier set, mais déjà on voit que psychologiquement, déjà Nadal a l'ascendant psychologique sur Federer, il doit gagner le premier, mais physiquement c'est impossible, même si son revers, même s'il joue sur sa ligne, même s'il est affûté comme jamais, il peut pas tenir. Un décalage coup droit, ça va deux secondes, mais ça t'use.
C'est pour ça que ce serait bien qu'il revienne pas l'année prochaine. au moins ce serait ouvert.
Ça sera son dernier.
Serait pas ouvert.
Ouais. Ah non, mais Federer gagnera. Enfin, tant qu'il y aura pas. Il y aura
Rafa,
Nadal,
déjà
il
l'année
pas.
Prochaine, il bat le record de Borg après l'avoir égalé.
Oui,
déjà.
Oui. Non, mais ce serait mérité. Mais bah, attends, normalement, il doit le faire encore. S'il n'est pas blessé.
Oui, attends.
Il peut le faire 10 fois.
Attends,
parce que comment il fait pour être au taquet lors de la finale? Quand même, il fait son meilleur match, même d'un point de vue physique, en finale.
Rafa
Nadal, bah, complètement. Le slice de Federer, quand il arrive sur le revers, non, mais la vitesse à laquelle il arrive, Nadal. Et à la vitesse à laquelle il recouvre ce revers, c'est quand même parce que les slices.
Je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux années précédentes, je trouve qu'il a fait quasi autant. On avait dit qu'il avait progressé avec son slice et tout ça, Nadal. Mais cette année, moi, je l'ai quasiment pas vu faire.
Mais le revers était redevenu un peu.
Il arrive toujours à placer l'appui, à refaire une relance, à repartir dans la diagonale.
Et si vous aviez Orange Sport, vous auriez pu remarquer.
Si vous nous l'aviez offert.
Justement, autant Federer que Nadal se sont rendu compte que ce slice maintenant, ok, au début a surpris, mais alors maintenant les deux se régal là-dessus.
Ils se connaissent par cœur en plus. Ils se connaissent par cœur. C'est pour ça que ça se joue même plus dans les tactiques ou quoi. C'est à ce niveau-là. Agassi l'a dit, comme quand il jouait Sampras en 2002 à l'US Open, ça comptait pas ce qu'ils avaient fait avant. C'était une rivalité. Il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre. Point barre.
Non, mais
c'est
alors, là, l'ascendant, c'est vrai qu'il prend des proportions quand même. 25 affrontements entre
les deux.
Il ne
parlait pas de rivalité.
17-8 en faveur de Rafael Nadal.
De Grand
Chelem. C'est-à-dire plus du double, plus de 2 victoires sur 3. 6 sur 8 en finale de Grand Chelem. Voilà, ça commence à faire un vrai écart, quoi.
Soyons honnêtes, c'est déjà super bien pour Federer de se trouver en finale de Roland-Garros, parce qu'on n'avait peut-être pas parié là-dessus, vraiment.
Bah, moi, je l'aurais jamais mis en finale.
Voilà, jamais. Je pense qu'il sort le match de sa vie contre Djokovic.
Pour moi, Federer, voilà, faut qu'il garde de sa quinzaine son match contre Djoko, c'est tout.
Mais c'est tout. Enfin, honnêtement, il a joué personne avant, parce que Wawrinka, on va arrêter de me faire rire.
Non, vous êtes dur. Il faut pas qu'il garde que le match contre Djoko. Il fait un super tournoi, certes contre des adversaires normalement sans problème. Il gagne tout en 3-7 en développant un jeu plutôt intéressant, et il fait un super match contre Djoko.
Il fait le match de sa vie contre Djokovic.
Deuxième tour là contre Teixeira, non?
Là, ça a été dur.
Ah, ça a été dur. Wawrinka, ça a été terrible. Il y a eu un break à un moment donné, mais Stan, il l'a
pas
gardé.
Non, mais attendez, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Il a un tableau facile, tant mieux pour lui. Il fait bien le boulot. Parce qu'alors, à ce moment-là, mon fils n'a rien à faire en quart de finale parce qu'il joue trois mecs qui rentrent même pas dans un tournoi.
Non, mais les trois sont au-dessus du lot. Il y a un autre tennis et le reste du monde.
Et puis quand Gaël arrêtera de rentrer sur le court en disant, tiens, si aujourd'hui je jouais le coup droit de Roger, juste pour voir. Il aura peut-être une chance de gagner, quoi.
Ça, c'est autre chose. Il a voulu aller à la bagarre. On en reparlera tout à l'heure. Sur Nadal, quand même, finissons. On l'a dit, on l'a répété. Il a traversé le tournoi difficilement. Il y a eu ce premier match contre Isner, où certes, il n'a pas été en danger de perdre.
Mais où il est poussé en 5-7.
Contre Andujar, il est très mauvais. Après, il y a son gros coup de blues mental ou joué ou ce que vous voulez, à vous de me dire. Et derrière, il y a cette montée en puissance progressive et ce déblocage sans doute contre Söderling en quart de finale. Moi, je trouve que le meilleur match de Rafa, pour moi, c'est celui contre Murray en demi-finale. En termes de qualité de jeu, je sais pas
Söderling,
ce que vous en pensez.
Moi, je trouvais qu'il tapait. Mais moi, c'est la différence entre le match d'avant Söderling et la bascule directe. Et en conférence la veille, il le dit. Il dit soit je vais avoir le déclic et je vais rentrer dedans, je vais me retrouver, soit je suis à la maison. Et le mec, c'est un champion quand même incroyable dans la tête pour pas se frustrer. Il monte son niveau de la moitié sur un seul match. Et Söderling qui arrivait limite, je suis favori parce que Rafa est pas bien, je vais le défoncer. Mais au bout de même pas trois jeux, t'as vu la panique sur sa tête à Robin. C'était plié.
Ouais, Söderling, c'est vrai, n'a pas existé sur Rafa. Moi, Murray m'a bluffé, franchement, quand même. Même en demi-finale, il perd en 3-7, mais je le trouve très bon contre Rafael Nadal. Donc, Nadal, seul au monde, définitivement. Roland Garros, c'est chez lui, on n'en parle plus.
Moi, je pense pas.
Un peu quand même.
C'est évident, tous les autres mecs, c'est de la rigolade.
Non, mais il y a un moment donné, il va perdre, parce qu'il va vieillir, il va fatiguer. Il y a des mecs qui vont passer devant.
Il va voir contre Djoko.
Mais voilà.
Alors, juste. Quand même, il a été pas bien mentalement dans le début du tournoi. On peut une nouvelle fois noter que ce garçon, on le sait, on le répète, hein, semaine après semaine, mois après mois, année après année, mais mentalement, ce garçon a vraiment des capacités hors normes, parce que même quand il est dans le dur, eh ben, moi j'ai en tête ce 5-1-0-40 dans le troisième set contre Andujar. Il mène 2-7-0, il peut dire bon, à 5-1-0-40, j'ai perdu le 7, je me reconcentre sur le 4e. Non, le mec, même à 5-1-0-40, il va gagner 7-5 au 3e. Ensuite, contre Söderling, là où tout le monde se dit oh là là, Söderling, il va nous faire une panata, ça va être le seul mec à battre deux fois Nadal à Roland-Garros, il se met dedans, il lui met 3-7. En finale, contre Federer, même s'il y a pseudo combat, il n'y a pas vraiment combat non plus, et il gagne. Donc, c'est quand même un garçon qui, même quand il n'est pas bien, Émilie, Julien, Carole, voilà, il va chercher des ressources mentales. Et cet exemple de 0-40 au 4e set, au moment où éventuellement ça peut tourner,
sens que c'est le tournant.
Bah, ça ne tourne pas, quoi. Ça ne tourne pas, tout simplement. Et il met un coup sur la tête de Roger derrière, Émilie.
Même mis à part Roland Garros, voilà, on le voit encore cette semaine, il est aligné au Queens, il joue en simple et en double. Et voilà, il sait être dans le dur quand il faut courber les chines, il le fait, il essaye de s'accrocher tout simplement. Et puis, il sait pertinemment que son tennis n'est pas parti du jour au lendemain. Donc, sur ce tournoi de Roland, il a eu du mal à débuter parce qu'il a eu au premier tour un joueur qui lui a complètement sapé le rythme avec sa façon de jouer. Puis, tout doucement, il rentre dans son tournoi. Et vu que c'est un tournoi quand même sur 15 jours avec un jour de repos à chaque fois, ben voilà, ça lui a permis de travailler un petit peu techniquement et tout doucement il est revenu à son meilleur
niveau. Il a admis ses faiblesses aussi, je pense que c'est son humilité qui fait qu'il se remet en question et lui il avance. Après la finale, il dit très bien, j'étais mauvais la première semaine parce que je venais de perdre 4 finales contre Djokovic et que je l'avais dans la tronche. Il a pas honte de dire j'étais pas en confiance, ça allait pas, alors que d'autres se seraient peut-être cachés, lui il se cache jamais. Et c'est peut-être au mental, moi j'ai l'impression que c'est peut-être là où il est le plus fort comparé au reste, c'est qu'il arrive à toujours se remettre en question au bon moment. Il se voile jamais la face, quand il est pas bon, il dit je suis pas bon.
Et c'est vrai qu'il ne l'était pas dans la première semaine.
De toute façon, ces joueurs sont hors normes. Donc il n'y a pas que Nadal, il y a Djokovic maintenant. Bon, Djokovic, c'est le début d'une longue carrière. Mais de Federer, voilà, ce sont des joueurs qui sont hors normes. Qui l'eût cru quand même qu'il batte Djokovic en demi-finale et qu'il fasse ce genre de match? Enfin, en tout cas, pas moi.
Moi, c'est fabuleux.
Je ne pensais pas qu'il était capable de jouer un tel niveau maintenant.
Mais Djoko, il faut voir Djoko après maintenant.
Ça va aller, la voix, Benoît ?
Moi, je suis curieux.
On l'a perdu.
C'est pas un chat, là. J'ai un guépard. Mais le but du jeu, c'est de savoir comment Djoko va digérer ça, quoi. Moi, je suis curieux de voir un petit peu sa saison, là.
Après, le gazon, c'est pas son truc.
J'ai une théorie que j'ai envie de vous soumettre sur Djokovic, sur cette demi-finale. Pour moi, il a fait une énorme erreur, Novak Djokovic, dans ce match contre Roger Federer. C'est qu'il l'a joué un peu melonné, un peu prétentieux. À savoir, attendez, laissez-moi finir. Je suis le meilleur joueur du monde en ce moment. J'ai pas perdu un match. Je vais gagner au panache ce Roland-Garros. Et en gros, donc, Federer, t'es dans un bon jour, mais moi, je vais jouer encore plus vite et encore plus fort que toi. Le problème, c'est que quand vous jouez contre un Federer qui est dans le mode meilleur joueur du monde, vous ne pouvez pas jouer plus vite et mieux que lui. Et Djokovic aurait dû avoir l'humilité tactique de dire « Ok, aujourd'hui, Federer est dans un bon jour, dans le meilleur joueur de tous les temps. Ça va trop vite. Je ralentis, je casse, je lift sur le revers. » Je fais du moins beau, je remets la balle une fois de plus que l'autre dans le court et j'essaye de voir. Or, Djokovic a voulu le jouer au bras de fer avec Federer, et quand Federer est dans ce mode intouchable, eh ben, même Djokovic, même aussi fort soit-il, il se casse les dents. Et pour moi, c'est une erreur que n'aurait pas fait Nadal. C'est-à-dire que Nadal va dire bah, tant pis, je joue moche, mais je joue pour gagner.
Mais tu peux pas comparer leur jeu.
Djokovic a joué.
Non mais
tu peux pas comparer leur jeu, c'est pas la même filière de jeu.
Mais Djokovic est capable de se mettre dans un mode ultra défensif.
Je pense que, contrairement à ce que vous. Moi je pense qu'il a repris un gros coup de pression, le garçon, parce qu'on l'a revu faire des mauvais choix, on l'a revu un peu paniquer, ce qu'on n'avait pas vu faire depuis plus de 6 mois. Je pense que face à l'enjeu, face à un super Federer, mon avis là-dedans, ça s'est bloqué aussi sur les moments importants. Il y a le premier set où il a 2 balles de 7, le tie break où il passe à côté, à 5-4 dans le quatrième quand il sert pour revenir à 2-7 partout. Moi j'ai revu le Djoko d'il y a une saison ou deux qui commençait à trembler.
Oui, mais il force. Que ce soit le melon. Il force à ce moment-là.
Parce que je pense que c'est la pression qu'il a rattrapé.
Ah oui, mais là, un joueur intelligent aurait dit, bah tant pis, j'arrondis.
Mais quand t'es en panique, mais arrondir, c'est pas son jeu. C'est
ça, il est capable de le faire.
Tu dis que c'est une quiche, quoi.
Non, je dis pas que c'est une quiche, je dis qu'il l'a joué un peu trop prétentieux.
Il a joué à l'envers.
Et qui s'est dit, je vais finir par lui marcher dessus parce que c'est moi le plus fort.
Sortir de ta filière quand t'es pas dans un grand jour ou que t'es stressé, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc se mettre à faire des lifts ou des.
Non, mais je te dis pas de faire du Aaron Sanchez.
C'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Son jeu, malheureusement, fait briller Federer quand Federer dans un jour comme ça.
Julien, Caron n'est pas d'accord avec ma théorie.
Je pense pas qu'il l'ait pris melonné, pas du tout.
Moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est que voilà, il est allé un peu au bras de fer. Il aurait dû être, c'est pas cigare. Je pense qu'il aurait dû être un peu plus humble dans sa façon de jouer. C'est de ce que sait faire Nadal. C'est hop, se baisser un petit peu, refaire jouer un peu au con avec Federer au lieu d'aller au bras de fer parce que voilà, il était un peu en chauffe quand même le petit Federer.
Il dit des gros mots comme ça depuis que je suis parti. Il dit des gros mots.
Ouais, on se lâche,
depuis qu'il se présente les matchs sur l'anglais.
C'est fou ça. C'est
slash.
Se lâche, mais.
Et ben moi, je ne suis pas d'accord.
Alors, allez-y.
Ben moi, je vous dis que ce gars-là, il gagne 43 matchs depuis la finale de la Coupe Davis. Il arrive sur Federer. Qu'est-ce que tu veux qu'il commence à se poser des questions?
Exactement.
Il a battu tout le monde en jouant comme ça. C'est pas Federer sur terre battue en potentiellement 5-7 qui va l'emmerder. Donc.
Non, mais c'est d'accord. Au départ du match, je suis d'accord avec toi.
Au départ.
Mais quand tu vois que le scénario t'échappe et que Federer est dans un jour exceptionnel, tu cherches une issue tactique. Il a pas cherché d'issue tactique.
C'est pas son jeu de faire des lots.
Déjà, je pense que.
Écoute, si tu joues un match de tennis et que tu cherches pas des issues tactiques quand tu perds.
Il a tenté de monter, il a changé les directions, mais il fera pas des lifts à la Nadal. C'est pas ça.
McEnroe et Vajda disaient que justement, le mec avait joué trop ce match dans sa tronche avant de venir sur le court. Déjà, beaucoup trop de.
Moi, je pense qu'il s'agit.
Mais en fait, les 5 jours, c'est.
Ah, les 5 jours.
C'est toujours le point interrogation, c'est que 5 jours à la fois, c'est canon puisque ça lui permet de se reposer. Je pense qu'il perd pas de rythme parce qu'il fait un début de match, un super premier set.
Bah oui.
Mais en revanche, je suis d'accord avec certains, c'est que ça, tu réfléchis. T'as du temps pour réfléchir, t'as 5 jours non-stop. Donc tu laisses.
Il était en pilotage automatique. Il était en pilotage automatique depuis le début de la saison. Et là, on l'a arrêté. Alors, ok, j'ai un match en jeu historique.
Ouais, mais je peux pas croire que ce soit à cause de ça.
Mais il y a un super Federer.
Non, mais c'est un petit facteur.
Moi, je pense que c'est la. C'est surtout la faute à Federer qui a fait un super match.
Mais il l'a mal joué. Quand je vois le nombre de fois il le joue en calant sur le coup droit, ça me rend dingue.
Et bah, donc tu rejoins ma théorie.
Mais pas par la cause.
Le mec, il était sur son petit nuage.
C'était un jeu vidéo, le truc qui couvrait des.
Mais quand tu vois que le jeu vidéo, t'es game over, t'as plus d'extra ball, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences une partie, tu joues différemment.
Tu l'acceptes pas, t'appelles Novak Djokovic.
Mais les deux sets où il est revenu.
Et ben donc, c'est bien ce que je dis, c'est cigare.
Mais non, c'est pas cigare. Et quand t'es tendu, t'es pas lucide. Eric, regarde ton Richard, quand il est tendu, il nous met pas.
Mais compare pas Richard Gasquet à Novak Djokovic.
Les deux sets où il revient, le troisième et le quatrième, c'est parce qu'il recommence à pilonner le revers de Federer.
Donc, il la joue plus humble et il essaie pas de lui marcher dessus.
Quand t'es tendu, tu n'es pas lucide. Et les deux premiers sets, moi j'ai revu avec ça.
série
soit tendue.
Là où tu vois la différence entre un très grand et un grand.
Mais attendez, on peut pas parler de genre de match. C'est que peut-être et sûrement le meilleur match de tous les temps, Roland Garros. Donc on va pas non plus parler tactique. Enfin, attends, ça jouait monstrueux.
Ah non, mais ça jouait monstrueux. Bien évidemment que ça jouait monstrueux.
Mais arrête de dire faire briller. Attends, qui est capable de jouer sur la ligne de fond comme ça, une vitesse de dingue
pendant 3-7 sur son
court. Et ben c'est ce que je te dis. Il a une autre approche tactique.
Ça n'a rien à voir.
On peut pas comparer. Il est gaucher l'autre. On peut pas comparer.
Quand Djoko bat Federer au début de saison. Quand Djokovic bat Federer au début de saison.
Djokovic, il n'aurait jamais joué comme ça.
Mais quand il l'a battu cette saison, Federer Djokovic, il ne l'a jamais joué à ce point côté coup droit.
Ben, c'est ce que je te dis.
Mais c'est pas parce qu'il était meloné, à mon avis. C'est...
Il a voulu le jouer au bras de fer, je suis plus fort que toi. Il a fait le gamin, il a fait le gamin. Je suis plus fort que toi, je vais te piquer toutes tes billes, voilà. Mais c'est vrai.
Je pense pas, je pense que sous la tension, il a. Mais le match, il est super. Ben, Federer fait le match de sa vie quand même.
Honnêtement, attendez, moi, vous m'avez fait.
Sur terre battue, Federer.
Enfin, pour moi, c'est un match de mutants. Enfin,
mais c'est un super match.
J'ai rarement vu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et
Federer collé sur sa ligne qui fait des nivolés du fond du cours. C'était du grand Federer.
Federer, il fait le match de sa vie sur terre battue. Est-ce qu'il nous le refera plusieurs fois? Ça peut lancer la suite de sa saison.
Bah, en tout cas, à 30 balais, presque 30 balais, faire encore ça, c'est un signe fort quand même à envoyer à tous les autres.
Moi, il m'a impressionné parce que je pensais vraiment pas qu'il pouvait jouer à un tel niveau là.
Moi non plus, j'y croyais plus. Moi,
j'y
Benoît, vous qui êtes un.
Je croyais pas.
C'est clair.
Peut-être que lui-même, il y croyait pas.
Benoît, vous qui êtes un inconditionnel de Roger, vous imaginez à ce niveau-là jusqu'en finale et notamment cette demi.
Ça va pas, toi, à aucun moment je le voyais en finale. C'est un pur bonheur de l'avoir vu jusqu'en finale déjà. Non, mais il paraît qu'il a super bossé comme d'habitude, tu sais pas, de toute façon. Entre Miami et Monte-Carlo, ils ont bossé comme des mâles. Puis voilà, après, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est vrai qu'on a retrouvé un Federer aérien, agressif,
plus d'intensité,
qui se déplaçait bien, qui tournait autour de son revers.
Il allait vite, il était agressif, il avait le bon état d'esprit. Non, mais il y avait tout. Mais après,
mais on l'avait dit, l'ego.
Il y a Nadal. Quoi.
On l'avait dit le jeudi de.
Est-ce que priver Djokovic d'une place de numéro 1 mondial, quelque chose qui a.
Moi, je pense qu'au niveau de l'orgueil, ça l'a titillé. Ça lui
a rien à cacher.
Tous les joueurs, j'ai demandé à tous les joueurs, ils s'en foutent comme
il l'a dit en anglais, Federer, si je pouvais lui gâcher la fête, ce serait pas mal quand même. Ah bah oui.
Il a fait un joli cadeau d'anniversaire le 3 juin à Rafael Nadal pour ses 25 ans.
Conférence de presse dit exactement ce que les journalistes veulent entendre. Et il fait ça dans toutes les langues.
C'est
le
roi du monde de la communication. Je pense qu'au niveau de l'ego, c'était un match qui l'a motivé. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait fait son meilleur match sur celui-ci.
Avec sa carrière, les joueurs de tennis, ils sont un peu narcissiques, ils sont nombrilistes, ils pensent à lui, quoi, à sa finale. Il va pas être en train de se projeter sur Djoko, il sera pas numéro 1. Non mais attendez, vous êtes non
sûr,
mais j'y crois pas d'un pet.
Non mais pas aussi directement, mais dire tiens voilà Djoko.
Mais
c'est
il pense à son kiff personnel du moment où il a joué un tennis de rêve. Il va pas penser à Djoko qui sera pas numéro 1 la semaine prochaine.
Ils sont pas journalistes, hein. Eux, ils sont pas dans le calcul.
Oui, ils se posent pas les questions.
Je trouve que l'ego ça joue aussi. Et l'arrivée de Djoko dans le duo qui est devenu un trio, à mon avis, ça a peut-être été la meilleure chose qui lui arrive pour sa fin de carrière à Federer. C'est que ça nous l'a peut-être remotivé, le garçon. Moi, j'écarterais pas ça du tout.
Hein. Ouais, en tout cas, peut-être. Federer a fait sans doute l'un de ses meilleurs tournois à Roland Garros depuis très longtemps, si ce n'est le meilleur, excepté celui où il l'a gagné, forcément. C'est son meilleur souvenir, mais Rafael Nadal n'était pas là. On relance surtout pas le débat.
Non, il pourrait pas se remarier, ses parents, et puis hop, ils redivorcent, et comme ça, hop,
et tu lui pètes un genou
aussi.
Federer
gagnerait.
Non, il y aurait
tu parles de Rafa là.
Ah bah oui, sa seule défaite, c'est parce que ses parents ont divorcé.
En tout cas, le clan était là. Il y avait la maman, le papa, la sœurette, la petite amie.
Devant,
il y avait tout le monde.
Hein.
Il y avait tout le monde pour ce Roland Garros 2011 pour pousser derrière Rafa, vainqueur donc de son 6e Roland Garros, record de Borg égalé. Juste après,
tu peux dire 7
juste après les infos. On reparlera du record, tiens, 10. Alors ça y est, maintenant on remet le record des 16 sur le tapis.
Quoi, 10
10 grands chelems. Peut-il se rapprocher des 16 de Federer?
Roland,
on évoquera bien sûr le tournoi.
Je ferme le stade.
Féminin. Fermer le stade, 10 Roland.
Ah ouais, s'il gagne 10 Roland.
C'est faisable, c'est faisable. Allez, on se retrouve après les infos. Voilà. C'est la fin de l'émission, c'est l'heure des pronos.
Allez,
les deux vainqueurs hommes-femmes, Carole Bouchard.
Le vainqueur
du tournoi,
Djoko Bartoli.
Pardon ?
Djoko Bartoli.
Djoko Bartoli, Clément Graise.
Non, je vois Sharap quand même.
Djoko Nali.
Julien Varley.
Rafa Nali.
Moi, je suis comme Julien Varley. Rafa Nali. Voilà, ça c'était les pronos de Carrément Tennis.
Qu'est-ce que c'était ? J'ai pas entendu à fond.
Ça c'était les pronos de Carrément Tennis avant les demi-finales.
Qui a dit Nali ? Plantes, hein.
Et Julien et moi nous avons dit Nali et Rafael Nadal, vainqueur du tournoi. Donc inclinez-vous, braves gens.
Alors là, bravo.
Devant ces pronostics.
Bravo.
Voilà.
La chinoise, fallait y aller.
Ouais, il fallait y aller. On avait aussi annoncé la victoire de mon fils sur Ferrer. On a été très très.
Très, très bon.
On est rarement bon sur les pronos, mais sur cette quinzaine de Roland, pour une fois. On va s'envoyer quelques fleurs, on n'a pas été mauvais.
J'ai été complètement nul.
Ah bon ?
Oh là là, nul.
Bah pareil.
Autant l'année dernière bien, elle a nul, zéro.
Elle est gênée comme ça, Mini.
J'ai eu un espèce d'état de grâce sur 15 jours, je sais pas pourquoi. Tu sais, un truc qui t'arrive qu'une fois.
T'aurais dû te concentrer sur les numéros de l'autre.
J'avais dit,
des fois, tu traverses des quinzaines, il t'arrive des trucs auxquels tu t'attends pas. Bah là, voilà. C'était la quinzaine.
C'est ça, j'ai raté la dernière marche.
Bah, la quinzaine magique où tout, voilà. Il se passe des trucs géniaux, les pronos, tout. Enfin, c'est super.
C'est super.
Voilà. Bon, par contre, bravo. Joko Bartoli.
J'étais pas loin.
Je suis à deux doigts de vous éliminer de la deuxième partie.
Bartoli, tu t'aurais mis Bartoli en demi-finale, toi.
Ah non, mais.
J'étais pas loin. Une marche. Bah,
ouais, mais non, deux. Gagnante.
Deux marches, oui.
Deux marches. Encore moins gagnante, mon cher Benoît.
Oui, bah bravo quand même à Marion.
Ouais, bravo quand même à Marion. Parlons des filles, tiens, justement.
Ah, Redzaï, ouais, parce que je connais pas
l'histoire. Non, pas Redzaï. D'abord, on parle de Roland Garros. Redzaï, on verra ça en fin d'émission.
Ouais.
Monsieur polémique, là, ça va. Hein.
Gossip.
Lani. Lani.
Ah oui, oh là, bravo.
Vous voyez, la quinzaine, non, mais ça y est, l'état de grâce est fini. Là, là c'est le coup de barre, tu vois.
C'est ça.
Bon, Nila, Lani, on va le tourner dans tous les sens. Comment on fait ?
Respect pour le peuple chinois. Lina. Ça se dit Lina.
Non, parce qu'en fait, ils mettent le nom en premier.
Alors, en Chine, ça se dit Nali.
Non,
non, ça justement. Se dit Lina.
Non.
Mais oh, on a discuté avec elle pendant un quart d'heure. En Chine, à l'intérieur de la Chine, c'est Lina. À l'extérieur de la Chine, ils s'en foutent. Vous faites ce que vous voulez à l'endroit, à l'envers, non, attends, c'est pas grave. Mais à l'intérieur de la Chine, en Chine, c'est Lina.
Son nom de famille, c'est quoi ?
J'en sais rien.
Li,
ils n'ont pas des noms de famille comme nous. Ça n'a rien à voir.
Parce que le nom se met en premier chez eux.
C'est Lina.
Lina. Donc elle s'appelle Li.
Alors,
son prénom,
alors dis-toi que si c'est le prénom,
ça.
C'est le premier. Bah alors,
ah
le
non,
prénom,
mais Li, c'est son,
c'est
Li, c'est son nom. Hum, moi, j'étais persuadé que c'était Naz.
Non, Li, c'est son nom. Ils mettent le nom en premier.
Oui, c'est pour ça que je dis Nali, parce qu'ils mettent le nom en premier. Mais donc, c'est Lina.
Ah bon, c'est Lina.
Bon, elle a gagné en tout cas.
Et quel est le nom de sa fleur préférée ?
Il a dit à tous les journalistes.
Ah, c'est normal. Elle vient sur le plateau. Elle vient sur le plateau. Et puis on l'interview.
Mais qu'est-ce qu'il raconte là ?
Je sais pas.
Et puis je lui dis.
Un truc de Parisien.
J'ai dit voilà, excusez-moi, mais je m'appelle Benoît Mélin. Et il paraît que Mélin en chinois c'est Mai Lin, et ça veut dire fleur merveilleuse.
Oh, l'autre.
Et elle me dit comment vous dites votre nom? Alors Mylène, elle me dit ah oui Mylène c'est fleur. Ouais. Elle me dit non c'est pas fleur merveilleuse comme vous l'entendez. C'est le nom en fait de cette fleur qu'on appelle fleur merveilleuse et sachez d'ailleurs que c'est ma fleur préférée.
D'accord.
Elle m'a fait du rire.
Mais après elle vous a dit mais je suis étonné parce que vous c'est plutôt fleur desséchée non?
Pas du tout. Pas du tout. Elle a dit fleur merveilleuse. Bon, wonderful
voilà, le coup
flower.
De foudre entre,
vous savez quoi? Ça mérite un petit coup d'hymne chinois ça je trouve non? Pour fêter cette fleur merveilleuse.
On va avoir le bon. Mylène. Attention, il faut avoir le bon, il y en a plusieurs.
On va essayer, allez.
Ça, c'est Fernandel, ça. C'est pas...
Mylène. Voilà, l'hymne chinois, première asiatique à gagner un grand chelem à 29 ans, parce qu'on a
c'est
l'impression
énorme.
Que la... Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Lina, elle débarque, non, pas du tout, 29 ans quand même.
29 balais.
Si, si, elle débarque, elle a eu beaucoup
pas
de blessures.
Mal de blessures
en fait, elle a été aux alentours de 10, hein, 10, 11, 12, opérée du genou, fracture de fatigue aux côtes, voilà, donc pas mal de soucis. Moi, franchement, chapeau.
Ouais.
Chapeau, parce qu'elle fait finale en Australie.
Ouais.
Elle se sert de cette expérience, je pense, de sa finale, alors qu'elle mène un set face
après,
à
après, on la voit pas trop le reste de la saison.
Elle fait que des premiers tours, 4-5 premiers tours. Et ensuite,
elle avait bien préparé des matchs. Hein.
T'as vu ça un peu
joli.
T'as vu bosser grave. Et déjà, face à Kvitova, je pensais qu'elle allait perdre.
Ouais.
Bah, d'ailleurs, elle est quand même menée 3-0 au troisième. Hein. Elle est menée 1-7-0 et 3-0 au troisième.
Et puis
l'autre explose un peu.
Et puis voilà, non, je la trouve d'enfer. La finale. Moi, je trouve exceptionnel. Mais surtout d'un calme. Elle stresse à 4-1 au second, mais normal au moment de terminer.
Ah, je pensais qu'elle allait péter les plombs.
Moi aussi.
Tu vois, et non.
Mais non.
Est-ce que vous ne trouvez pas, sans aucune connotation quelconque, je préfère prévenir avant, je trouve que c'est quand même très, pour le coup, asiatique, ça. Les Asiatiques ont une espèce de sérénité, un espèce de calme.
Mais d'elle, ça m'a étonné.
Non, mais c'est vrai.
Mais en fait... Prends la pierre, petit scarabée.
Mais non, mais c'est vrai, ça fait partie de leur culture aussi, la zénitude.
Elle l'a bien géré parce que jusqu'à un 7-4-1, tu sens la nana qui est dans sa bulle, qui est concentrée. Et là, elle sent qu'elle commence à flipper un petit peu.
Et là, le mari l'en prend.
Plutôt que de le garder pour elle, tout ce stress. À la limite, tu peux te recroqueviller, te dire oh là là, la panique arrive et tout. Et ben, elle a eu cette intelligence justement de l'expulser, de parler un peu à son clan, d'un petit peu s'énerver. Et je pense qu'elle l'a géré, mais du début à la fin, incroyable.
Elle a super bien joué.
Fabuleux. C'est une fille qui est rigolote, qui est pas du tout introvertie. Donc moi, ça me surprend pas qu'elle se soit.
Et ce coup droit, j'allais vous dire, ce coup droit. à la fois puissant et recouvert avec quand même un peu de sécurité.
Mais avant, on faisait 40 fautes par match, on s'en rendait pas compte. Et maintenant, elle fait plus de fautes. Et on se dit, ah ouais, sacré coup droit. Demande à Sharapova qui a passé son match à lui.
Je l'ai trouvé bien, même.
Physiquement,
elle a fait des volées hautes de coup droit lifté, là, à un moment, pour se débarrasser de la Schiavone qui devenait un peu embêtante, là. Elle a pas tremblé, elle a pas hésité, première finale.
Le tie-break est monstrueux. Le tie-break est monstrueux.
Elle est bien, quoi. L'autre, elle est là, quoi. Enfin,
mais moi, je l'ai
Jusqu'à 30-40.
J'ai fait sa sortie du cours un jour sur le Langland, je sais plus quel match c'était. Et donc, j'ai vu les deux, trois derniers jeux vraiment proches. Et je trouvais que ça avance, sortait. Hein. Et puis, ça fait
c'est
vraiment
lourd,
un beau
c'est
bruit.
Lourd, c'est lourd,
elle est
lourde.
Parce que battu,
parce que je me suis vraiment rendu compte que même quand on commande beaucoup de matchs, c'est pas du tout la même chose que d'être au ras du cours. Et j'ai trouvé que sur certaines joueuses ou joueurs, et elle en particulier, ça sortait vraiment très très vite de la raquette.
T'as vu comment il glisse qu'il est au bord du court, lui ?
Ouais.
Tu vois ?
Non, mais...
Ah si, t'es comme ça, Julie.
Si, si. Ses déplacements.
Vous parlez de l'humour.
Ouais, elle bouge bien. Parce qu'elle est grosse.
Non, mais son entraîneur, moi je voudrais connaître son entraîneur physique.
Elle est tonique.
Elle est costaude, la gamine.
Elle est tonique.
Je voudrais connaître son entraîneur physique parce que c'est pas une joueuse quand même à la base de terre. Elle glisse bien.
L'appui pied droit côté ouvert.
Tout est contrôlé. Attends, c'est fabuleux.
Une petite pensée pour Caroline Wozniacki quand même, qui a accepté de donner, il me semble, un conseiller technique ou un de ses coachs à Lina cette saison juste avant Roland-Garros. Elle pensera à toi en se pensant trop.
Caroline Wozniacki, c'est la déception, mais alors à tous les niveaux de ce Roland-Garros.
Ah mais non, c'est normal.
Tennistique.
Ils l'ont fait jouer Bruxelles la semaine d'avant.
Non, mais tennistique, déclaration. Je suis allé à la soirée officielle de l'ITF. C'était n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi. Elle était habillée n'importe comment. C'est la déception totale, Wozniacki, mais alors du début à la fin, dans tous les niveaux.
Alors moi, pour le coup, je pense que ça va lui servir parce qu'ils l'ont fait jouer Bruxelles. Exactement.
Je dis pas le contraire.
Elle a pété les plombs. Qui va lui servir.
Le Sven, moi, j'en ai parlé avec Sven, l'ami de Julien.
Sven
Grunewald. Et voilà, elle a fondu un fusible, quoi.
C'est bien que ça lui arrive maintenant.
Elle est plus trop sur le tennis, elle est très sur les garçons, elle fait plus du tout attention à son physique. Enfin voilà, il y a un gros boulot, de récupération.
Et tu t'es fait allumer par elle, parce que déjà, tu pars Nali, donc par elle, non, pas du tout.
Non. Wozniak était très sur Cédric Pioline.
C'est très bien ce qui lui est arrivé.
Parce que elle est dangereuse.
Ou c'était Cédric Pioline qui était très sûr.
Parce
que le père a quand même eu cette phrase absolument magnifique après sa défaite en disant on va essayer à partir de maintenant de pas la faire jouer la semaine d'avant à Grand Chelem, histoire de voir ce que ça donne.
Il y a que Carole qui
sort. Si elle joue pas, mais Bruxelles.
Carole, elle lâche pas.
Mais non, ça me rend dingue. Bruxelles, elle joue deux matchs en 5 heures avant d'arriver à Roland Garros.
Bah attends, Bartoli, elle a fait Strasbourg jusqu'à la finale,
elle
va en demi-finale.
Et il s'étonne maintenant, le père Wozniacki. Ah, c'était peut-être pas une bonne solution.
Non, mais Wozniacki, il faut peut-être qu'elle arrête de manger des crêpes avec Mirka
Federer
aussi. Hein.
Wozniacki. Mais c'est très bien ce qui lui arrive là.
Parce que là, elle est en train de.
Moi, je pense que c'est une
très bonne chose. Je pense qu'elle est jeune, ça va être hyper dur à gérer. Elle est numéro mondial, la pauvre, elle a toujours pas gagné de grand chelem, mais elle est pas prête à gagner.
Elle se fait tailler partout.
Mine de rien, toutes ces questions de journaliste et tout, ça doit lui prendre la tête, un truc de dingue. Elle fait sa pub, j'en peux plus de sa pub là.
Compite, tu l'as vu partout
son
aussi.
Son truc là dans l'avion et aussi, tout. Enfin, toutes ses pubs sont.
Moi, c'est les Kinder Bueno.
Je pense que
ça
lui monte un petit peu à la tête et bon.
Ça va lui faire une expérience.
Ouais, ça va lui faire.
Elle est en larmes.
Ah bah là, c'est pris une bonne claque à Roland Garros. Bien comme
hier Sharapova, tu crois. Et sans rire Sharapova.
Respect total.
Respect. Tu t'imagines cette nana avec le fric qu'elle a. Elle pourrait en avoir rien à caguer, se défoncer sur
une compétitrice hors pair.
Une attitude
elle est incroyable.
Ah non, respect total pour moi.
Elle fait comment ? Je sais pas.
Il imite assez mal. Non, mais c'est une compétitrice hors pair.
Le Gargamel, tu vois.
Il fallait la voir aux entraînements tous les jours, le début de semaine. C'était, elle se fait vraiment aucun cadeau.
Parce qu'elle, moi, je veux la voir. Moi, j'aimerais bien. Alors, les Sir Williams, plus la Maria qui recommence à servir le feu et toujours son mental de dingue.
Oui, ça peut faire. Mal.
Ça peut faire
c'est
un beau tournoi.
C'est pour ça que Wozniacki, même à Wimbledon.
Wozniacki, c'est même pas possible.
Ah bah oui, mais. Après, on a souvent eu des surprises ces derniers temps.
Alors avant de parler justement du retour des Sir Williams.
Et Schiavone, faudrait quand même féliciter Schiavone qui fait deux finales consécutives à rien quand même. Oh.
Et qui s'arrache.
Mais moi je mettais pas.
Parce qu'elle est dans le dur. Elle est dans le dur pendant le tournoi elle aussi.
Bah, Pavlyuchenkova 6-1-4-1.
Notamment.
Très beau sa victoire contre Pavlyuchenkova.
Bah, elle est dans le dur dans sa
préparation. On a eu un beau tournoi. On a eu un beau tournoi quand même.
C'était bien.
Fille et mec.
Petite polémique d'ailleurs dans la finale avec Schiavone et le clan
c'était
italien.
C'était un peu minable ce qu'ils ont fait.
Sur le deuxième set et cette balle qui offre une nouvelle balle de set à Schiavone.
C'est assez minable.
La balle dehors annoncée bonne.
Le hokai
qui donne raison
après,
aux Italiens. L'arbitre. Bon, il n'y a pas de hokai pendant Roland Garros.
La balle qui fait
à 40A. À 40A en demi-finale.
6-5-30-40.
Non, à 40A.
C'est à 40A. Une balle de tie-break au lieu de balle de set.
Exactement, au lieu de balle de match.
Non. Au lieu de balle de 7. C'était balle de break.
C'était pour revenir.
C'était balle de break Schiavone ou c'était balle de jeu décisif pour.
Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc là, le Hawkeye montre que la balle
mais on est sur terre battue, l'arbitre elle voit une marque et alors moi je veux
non, mais y a eu
attends, tu veux pas défendre l'arbitre pour moi
ah,
l'arbitre
si, Louise Engzel, tu rigoles, t'attends pas Louise
après,
quoi.
Mais on est mais ce serait le troisième set, c'est hyper serré. Elle est dominée avant, elle est dominée après. Qu'elle dise après en conf, ça a changé le match, que les Italiens.
Bah attends, si tu gagnes le deuxième set, ça change quand même tout le match.
C'est toi à la place de la nana qui est quand même sur le terrain, t'as envie de la tuer.
Attends, ça change tout.
Elle a pas été si méchante que ça.
Mais attends, elle a été super. Attends, mais il y a plein de joueurs qui l'auraient.
Elle allait la bouffer, la Louise Engzel.
Ça se joue pas là-dessus, le match.
Non, ça d'accord. Sauf que si elle gagne le deuxième set, c'est quand même le même match.
Ça lui donne pas de set. Ça lui donne pas de
c'est quand même plus le même match,
bah oui,
évidemment.
Et je vous rappelle qu'à partir de là, elle fait plus un point. Zéro bon, point.
Déjà, là, Louise Machin, là, elle fait une.
Non, c'est Louise Engzel, c'est pas Louise Machin, elle est
Elle se lève de sa chaise et tout, elle va le voir. Tu veux pas, tu veux prendre une pause kiné ou comment ça se passe?
Non, mais... On n'aurait jamais dû les laisser
mais
la finale.
Mais comment ça se fait qu'elle joue la finale?
Mais vous vous étonnez que quelqu'un ne résiste pas au charme italien, vous?
Ah bah, Fonini, excuse-moi, c'est quand même pas non plus.
Quoi? Ben ouais, mais
ah, c'est quand même pas mal quand même.
Ah, tu vois, voilà.
Non, Fonini, non.
Elle l'avoue. Quoi, Fonini?
Fonini, non.
Non, Fonini, alors juste pour l'anecdote,
le prix de l'acteur
c'est Julien
de la
qui va nous raconter ça. Le match contre Montanès. Bon, alors on a beaucoup parlé du mec qui pouvait plus marcher.
Pas mordu,
si, au début, quand on m'avait dit la pause pipi, pourquoi il était sorti.
Ah oui, non, c'était fabuleux. Ah non, t'es pas au courant. Non, début du cinquième. Début du cinquième, je suis au bord du terrain et en sortant du Langlaine, t'as un grand écran. Et c'était 14h pile dimanche. Départ du Grand Prix de Monaco. Il va faire pipi, il revient. Donc le Grand Prix se lance.
Non.
Il a regardé le premier tour et après il est allé sur sa chaise.
Elle est énorme, rien n'arrête.
Pendant que Montagnès il attendait.
C'est franchement, énorme. Mais Montagnès il y a de quoi mes souvenirs de veine sur ce coup-là quoi.
Ah, il est extraordinaire ce Fonini.
C'est ça.
Bon.
Tout en soit qu'un truqueur soit extraordinaire.
Le lendemain, il boitait réellement et je pense qu'il s'est quand même bien blessé.
Ah non, il s'est pété.
Ah mais le problème, c'est
voilà,
comment.
À force
de faire du cinéma, personne finit par te croire quoi.
Ah, c'est un peu le problème. Midi 15, je voudrais qu'on passe justement vers la transition vers Wimbledon avant d'évoquer le cas Aravan Rezaï. Et j'ai une question qui vous est posée par un auditeur qui m'a envoyé un gentil petit mail cette semaine. Il s'appelle Benoît, tiens, comme vous.
Ah.
Bel hommage.
Alors forcément, c'est quelqu'un de bien.
Et qui voudrait avoir votre avis sur deux choses. Ça permet de faire la transition, c'est parfait. La proximité déjà entre Roland-Garros et Wimbledon. C'est vrai qu'il n'y a que 15 jours d'écart entre les deux tournois. Et le ralentissement dont on parle tant à Wimbledon depuis plusieurs saisons. Voilà, Benoît voudrait avoir votre avis là-dessus. Alors d'abord, la proximité peut-être entre les deux. On rappelle que Federer a déclaré forfait à Halle, que Djokovic a déclaré forfait au Queens.
Et
que Nadal, en revanche, lui, est allé enchaîner.
Et
il a gagné hier
enchaîne
son premier
sur une cheville en vrac.
Simple et double. Ouais.
Simple et double.
Et Murray qui va aussi malgré ses chevilles. Non, mais qu'on arrête de parler de saison sur gazon. Il n'y a pas de saison sur gazon. Il n'y a pas de saison sur gazon.
Ouais, mais le problème, c'est que voilà, le calendrier est fait comme ça. Mais
il n'y a pas moyen de mettre une semaine.
Non, non, mais je suis tout à fait. Le calendrier est fait comme ça, mais c'est vrai que c'est trop rapproché. Il n'y a pas.
C'est complètement ridicule. Même pour Wimbledon, c'est pas.
Mais même pour les tournois genre Halle, Queens, je pense que si il y avait ne serait-ce qu'une semaine de décalage. Tous les joueurs joueraient le Queen's et Halle et les deux ces tournois-là ils gagneraient aussi. Donc,
Et finalement les deux tournois les plus
c'était la saison sur terre battue qui n'existait pas, qui était coincée entre toute une année sur gazon. C'est maintenant ça s'est inversé parce que le gazon malheureusement est devenu beaucoup trop difficile à entretenir donc on a mis du ciment là-dedans. Ça coûte moins cher et ça reste frais longtemps.
Oui, donc voilà.
Et maintenant c'est le dur qui bouffe tout le monde. La saison sur terre battue, on a beau dire qu'elle est très courte aussi. Hein. Les mecs qui sont pas habitués de la terre, déjà ils se pètent, c'est obligatoire, s'ils veulent aller jusqu'au bout. Et puis il y en a quelques-uns qui sont nés dessus.
Tu te mets à la place des mecs mentalement, parce que même si elle est plus courte, elle est quand même vachement condensée. Hein, la saison sur terre battue, ils ont beaucoup donné physiquement et mentalement. Te remettre dans Wimbledon deux semaines après Roland-Garros et toute la préparation qui a suivi, moi honnêtement, je ne sais même pas comment
et
ils font.
Et finalement, est-ce que le Queens et Halle, qui sont peut-être quand même les deux tournois les plus importants de préparation pour Wimbledon, devrait être peut-être la deuxième semaine.
Non, parce qu'il serait juste avant un grand chelem.
Si ce n'est que certains aiment bien être sur le stade.
Les meilleurs joueurs mondiaux, ils
jouent pas la semaine d'avant un grand chelem.
La semaine qui précède, quoi. C'est ça le problème.
Non, il faudrait juste une semaine de plus entre Roland.
Une semaine de battement et après attaquer Queens.
Alors, vous avez vu, j'espère, la sortie du directeur du tournoi de Halle. Très remonté quand même là.
J'ai pas mal rigolé quand même.
Contre Roger Federer et son contrat à vie avec Halle pour qu'il vienne pendant 10 ans avec une grosse garantie à la clé.
C'est des trucs absolument ridicules.
C'est la deuxième.
C'est Ralph Weber.
Ralph Weber, ça fait deux fois que Federer les plante. Alors, après, il y a deux théories qui s'expliquent sur le forfait de Federer. C'est soit, en effet, physiquement, il avait quand même une petite gêne après deux énormes matchs contre Djoko et Nadal. Soit, il se sent très très fort, justement, pour Wimbledon. Et il n'a pas envie d'hypothéquer que ce soit avec une bêtise.
Je pense qu'il peut gagner Wimbledon. Quand il fait finale à Roland en jouant un tennis de dingue, physiquement, il a l'air au top.
Ouais, c'est pour ça.
Il est quand même plus tout jeune. Il va partir à Wimbledon tranquillement, peaufiner sa préparation.
Alors le...
Et aller gagner, oui, mais je pense
le problème, c'est que l'an dernier, moi, je me souviens très bien de leur annonce en grande pompe de ce contrat à vie jusqu'à la fin de sa carrière, de tous les temps, de la vie, de la mort. Et encore une fois, c'est très bien, parce que c'est une connerie monumentale. Ça ne devrait même pas être autorisé.
Ouais, mais toute la com est faite là-dessus.
Qu'un tournoi signe un joueur pour la durée entière de sa carrière, toi, pour pas qu'il a joué un jour au Queen, ça ne devrait même pas être autorisé par l'ATP. Donc très bien, il se l'est pris la première saison dans la tête, il l'a pas, il a mis tout son tableau sur Federer, il a personne d'autre. Et ben next time.
Oh, voilà. Personne d'autre, vous êtes dur quand même, mais.
Il a Berdych. Il a fait venir Berdych, le public avec Berdych. Quand même. Non mais tu sais très bien comme moi.
Il l'a dit.
Il a tout mis sur Federer. Et ben déjà hier il a dit non mais l'an prochain je vais le voir avec Rafa et Novak s'ils veulent venir. Ah bah vas-y maintenant.
Alors mais vous avez vu la déclaration justement, notamment sur le fait qu'il avait prévu le jet privé pour Roger.
On va pas faire un quart d'heure là-dessus.
La femme de chambre, c'est énorme l'histoire de la femme de chambre.
Je ne rentrerai pas dans ces blagues à deux balles.
C'est pas une blague.
Il va y avoir une manifestation de femme de chambre.
C'est un communiqué officiel comme quoi ils avaient mis à disposition tout ce qu'il fallait, jet privé, femme de chambre et compagnie.
Il était venu chercher un jet à Roland une année. Non mais. Je pense que
c'est quand même extraordinaire.
Je pense que sinon, il va pas aimer du tout la mifle d'erreur que Weber balance allègrement sur lui depuis deux jours. À mon avis, ça va vite se calmer ou c'est le divorce. Hein. Bah, et il a raison, Federer, il a donné beaucoup.
Non mais la chose étant, c'est que c'est vrai, il a eu deux matchs.
Le contrat, hein.
Non mais
c'est pour ça.
Non mais cela dit, il a eu deux matchs difficiles. S'il joue un tournoi, c'est pour aller au bout, donc ça lui fait encore 5 matchs, quoi, 4 matchs ou 5 matchs. Voilà, il préfère pas aller en hypothéquer son physique sur Wim. Donc,
il a
gagné 12 fois. Et, puis, ouais.
Ouais. Et qui est venu à sa défense?
Rafa.
Raphaël Nadal. Qui a dit, mais attendez, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà, s'il joue pas un tournoi, c'est qu'il se sent pas et point barre. Arrêtez
mais c'est pas le monde des bisounours non plus.
Non, mais c'est presque son agent.
On va les paxer tous les deux.
Non, mais c'est ça.
Mais t'as vu quand Rafa, sur le podium de Roland. Quand il dit ses premiers mois à Roger, ok, c'est convenu, ok, c'est facile, mais la façon dont il l'a dit en baissant.
Il le pense.
Ah, il est vraiment sincère, quoi. C'est-à-dire, il baisse les yeux, il est là, Roger Federer. Et...
C'est pour ça que Roger l'adore.
Je trouve que c'est
ça
incroyable.
Une petite érection dès que tu parles de
Roger. C'est pour ça que Roger. Mais tu sais que Nadal, quand il bat Murray, à en compte, derrière, il dit à chaque fois que je le bats, ça me fait de la peine parce qu'il a tout pour gagner un grand chelem, j'aurais tellement qu'il en gagne un. Il le pense. Il est comme ça. Après, moi, des fois, je trouve c'est un peu trop bisounourslant de Roger, je t'aime aussi.
Alors, lui aurait dû faire l'impasse sur le Queens? Est-ce que lui met en danger?
Non, parce qu'il prend
Je crois qu'il
comme ça.
Il veut garder le rythme. Après, ça dépend.
Il fait tout le temps ça.
Federer, il a pas besoin, à la limite, pas besoin de faire un tournoi pour être bien à Wim. L'autre, il fait simple et doux, donc ça veut dire qu'il a besoin de repères, il a besoin de servir beaucoup, de retourner, travailler ses enchaînements au filet.
Puis derrière, il y a une semaine de repos avant.
Il y a eu deux enchaînements différents. En 2008, il gagne Roland. Il gagne le Queens.
En finale contre Joe.
Et il gagne Wimbledon derrière. Tandis que l'an dernier, il gagne Roland. Il perd dès le 8e contre Feliciano Lopez au Queens. Et il gagne Wim derrière. Donc il a déjà eu deux scénarios différents. Mais à chaque fois, il a joué le Queens.
Est-ce que là, il y a aussi le fait de prendre quelques points pour la place de numéro 1 mondial?
Non, mais il y croit pas à la place
on
va faire.
Je demande.
Il faut faire les pronostics pour Wimbledon.
On va faire un tout petit point.
Tant qu'il n'y a pas le tableau, je dis rien.
Calculatrice.
Il y a 45 points.
Il y a 45 points d'écart. Pour que. Nadal garde sa place de numéro 1 après Wim. Là, il faut vraiment.
Mais arrêtez avec la place de numéro 1 de Nadal. Elle est finie. Puis il en a rien à caguer.
Il en parle
c'est
à
en
fois,
fin d'année.
Oh, il passera quand même les.
Mais il en parle pas à chaque conf. C'est parce qu'il y a 15 000 journalistes qui posent la question.
Non, mais là, on en parle. Donc,
nous en parlons, lui demandons.
Mais la
pas.
Preuve, on en parle là ce matin, ça sert à rien.
Non, on fait juste un point pour dire qu'il n'y a que 45. On informe aussi. Il n'y a plus que 45 points d'écart.
On est obligé d'en parler.
Mais en
sinon,
effet, ça n'a pas spécialement d'importance à court terme.
Ça en aura pour Djokovic, si il passe numéro 1, ce serait une première
histoire. Nadal a quand même passé le cap des 100, va passer le cap des 100 semaines quand même avec cette histoire de l'avoir gagné, gardé à Roland. C'est symbolique.
Et l'autre, il a ramené le truc à Nadal, discrètement.
Mais non, on parle du numéro 1. Oh là là,
mais la place de numéro 1 est à Djokovic la semaine prochaine, la semaine d'après.
Mais peut-être.
Voilà.
Pas de soucis de ce côté-là.
Cela dit, Murray joue aussi au Queens.
Oui. Entraînant sa. Entraînant sa patte et en se plaignant qu'il a mal, bah je joue pas, garçon.
Ah non, vous êtes dur là, Benoît. Il a fait un vrai bon tournoi de Roland. Ouais.
Ah, mais bien sûr qu'il fait. Mais je l'aime pas. Mais sinon, c'est un très bon joueur.
Et son match contre Nadal, même si vous allez dire je parle encore de Nadal, son match contre Nadal en demi est vraiment pas mal, quoi, à Murray, sur terre.
Mais bien sûr. Mais sa demi à Rome contre Djokovic est
fantastique.
Ah oui. Mais c'est un très bon, mais je l'aime pas.
Vous l'aimez pas.
Moi, j'aime bien me faire rire. Moi, honnêtement, il me fait rire.
Alors, le retour des sœurs Williams. Wimbledon. Enfin, Eastbourne d'abord la semaine prochaine. Enfin.
Ah là, je veux voir ça.
Enfin, Émilie.
Ouais, enfin.
Parce que franchement.
Mais qu'est-ce que ça va donner?
Non, mais c'est canon pour le tennis mondial. Ça, c'est clair.
Pas si elle gagne.
Mais bon, c'est un jouable, on peut pas parler avant de les avoir vus jouer.
Non, mais rien que le fait qu'elles reviennent, ça redonne un coup de boost au tennis féminin, quoi.
Ah ben, on va pas parler.
On va voir comment quelle est elle aussi, parce qu'elles ont fait des comebacks miracles les dernières saisons.
T'imagines quand même que si elles font vainqueur et finaliste alors qu'elles ont pas joué depuis un an.
La honte.
Je suis désolé, mais là, ça donne pas un coup de boost au tennis féminin.
Vénus, elle a été blessée en janvier.
C'est pour ça que je le dis avant le tournoi.
Elles s'entraînent depuis 6 mois, on n'en sait rien.
Ah, mais je suis sûr.
Elles reviennent ensemble. Quand tu regardes la carrière des deux, quand même, elles ont eu leur place de numéro 1, c'était en 2003, je crois. Une en février, l'autre en mai, ou je sais plus quoi, faut regarder précisément. Elles font tout ensemble. Donc là, ça se trouve, ça fait je sais pas combien de temps qu'elles s'entraînent.
Mais t'es d'accord qu'entre s'entraîner et avoir un rythme de match, c'est quand même pas la même chose.
Ouais. Mais
autant Serena n'a plus joué.
Moi, je peux pas me prononcer, j'en sais rien.
Serena n'a plus joué depuis.
Rire, si elles font des matchs d'entraînement l'une contre l'autre à fond la caisse, je peux dire que le rythme, elles vont le retrouver.
Ouais, mais c'est qu'on sait rien. On sait pas, on sait rien.
La limite, le rythme du match.
Vénus, on sait rien. Vénus, elle était déjà pas bien avant Melbourne et s'est blessée en janvier. Je m'inquiète plus pour Vénus.
Rappelons le contexte quand même. Serena n'a plus joué depuis Wimbledon l'an dernier, dont elle est tenante du titre. Elle a fait sa blessure au pied avec son bout de verre, son embolie pulmonaire. Bon, bref, la totale. Quant à Vénus, elle a quand même joué l'US et l'Open d'Australie. Mais c'est tout, elle n'a joué que ça. Et elle s'est blessée aux genoux et aux abdominaux.
Alors,
sur l'ensemble
des
8 mois.
Moi, je me souviens très bien que quand j'en viens à Melbourne, c'était le psoas. Hein, ça n'avait rien du tout d'abdominal. Oui, bon, donc, bah, oui, non,
elle s'est blessée musculairement.
Je te dis le néant de. On ne sait rien sur
attends, et Kim Clijsters, ça gagne bien l'US Open après sa maternité. Alors, c'est pareil. Hein.
Oui. Puis des comebacks, Serena l'avait déjà fait.
Elle avait joué un tournoi avant. Elle avait joué Montréal avant.
Quelle année, Serena, elle gagne l'Open d'Australie contre Sharapova alors que tout le monde se fout d'elle parce qu'elle est hors de forme et elle met un et je sais pas quoi à Maria. Avec elle, on ne peut jamais savoir. Mais là. Ça serait quand même un sacré tour
c'est
de
c'est pas
force,
l'année
hein.
Où Camille Pain a failli battre Sharapova si, au premier tour avec 40 degrés là,
c'est quoi,
cette année-là.
Oh, je sais plus quelle année c'est.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Mais elles étaient brûlées, les filles.
Avec Sharapova qui mettait des tonnes de glaçons sur
voir,
la tête.
Faut voir.
Il y a 4 ans. Non
ouais, il y a. Y a...
Ouais, ça passe vite, je sais plus quelle année c'est.
Émilie, mais vous jouiez voilà. Encore
ouais. Donc faut voir, mais.
Sans jouer, sans passer ça jouer.
Bon, on finit avec Arvan Rezaï. Notre petite Française de 24 ans retombée au 52e rang mondial et on a appris donc cette semaine qu'elle avait porté plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt contre son papa Arsalan pour escroquerie, violence
elle avait pas de choix.
Et tout le tintouin. Donc ça va nous faire encore une affaire à rallonge, ça va être encore
non,
bien
mais
pour
ce... Non mais c'est que c'était la seule solution qu'elle avait, il faut dire quand même qu'à Roland-Garros, elle ne pouvait pas dire où exactement elle allait s'entraîner, où elle était, c'était la seule façon qu'elle ait pour que juridiquement on puisse l'aider. Voilà.
Ouais, enfin, est-ce que ça va là ? Elle qui réclame de pouvoir repenser à son tennis
elle
et
ne
tout
peut
ça.
Pas. Elle ne peut pas parce qu'il ne la lâche pas. Donc, tant que juridiquement elle n'a pas porté plainte, il y a plein de choses qui ne peuvent pas
mais
se mettre en route.
Pour en
donc,
avoir parlé avec Vincent Lamarre, que tu dois connaître, Émilie, qui est en ce
elle
moment
a
en fait.
Corps quand même,
c'est un entraîneur physique qui est détaché pour par la fédération pour l'entraîner. Il me dit le problème, c'est que surtout, c'est qu'elle n'a pas de chez elle. Elle oui. Vit avec ses sacs. Et que son père, entre guillemets, la cherche quand même et tout ça. Mais après, le père Rezaï, elle aurait dû faire ça depuis belle lurette. C'est qu'à la Fédé, on le connaît. Il a interdit de Roland Garros. Il y a déjà eu plusieurs soucis. Donc maintenant, elle a eu le courage de le faire. Mais c'est sûr que pour se reconcentrer, pour se mettre bien dans son tennis, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon.
Lui laisser du temps, donc, comme on le dit, on le répète.
Mais...
De toute façon, c'est dur de se prononcer. Je connais pas du tout l'histoire, si ce n'est que c'est d'une tristesse abominable. Après, voilà, si elle pense que la meilleure solution, c'est de porter plainte, je pense que, voilà.
Ça peut être facile, à mon avis, pour elle.
Il faut qu'elle le fasse. Ça doit être très, très dur de porter plainte contre son père. Ça doit être très difficile.
Je pense que c'est la dernière solution. Mais
demander au Bettencourt, dis-je.
Non, mais regardez, Zena de Kitsch,
parce que vous savez qu'elle était sortie avec un petit mec de l'ATP.
Toujours, elle est
avec. À l'Open d'Australie, oui, elle est toujours avec. Mais je peux te dire qu'il n'a pas passé une bonne quinzaine à Roland Garros.
Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est pour ça que là, il fallait arrêter.
Il a l'impression qu'il a un contrat sur sa tête, quoi. Que si jamais il n'est pas entouré et tout ça, il va se faire dégommer.
Elle a un garde du corps quand elle s'entraîne à Ravan. On en est là.
C'était au JDD que le père avait donné une.
Je n'en parle pas. Je trouve ça scandaleux, ne serait-ce qu'on l'ait publié ça.
Avant le tournoi. Et quand on lui pose la question.
Pendant le tournoi.
Quand on lui pose la question sur le petit ami, il dit mais quel petit ami ?
Quel petit ami ?
Il n'y a jamais eu de petit ami.
Déjà, ce journal, c'est scandaleux. Cette interview, c'est honteux, ça. Le journaliste là. Non, mais attends,
franchement,
c'était qui ?
Et lui, publier faut regarder, mais publier ça, aller chercher l'article.
Est-ce qu'à l'époque de Doki, je t'aurais laissé Dami refaire une tribune dans le Cinéral de n'importe quoi en disant mais j'ai toujours bien traité ma fille, franchement. Voilà, faut arrêter de dire.
Et le journaliste, elle est au bout du rouleau pour les.
Non, mais le journaliste, attends, alors, je défends le journaliste.
Non, attends,
laisse-moi finir. Je défends le journaliste dans le sens où, à mon avis, si tu veux, on lui a pas vraiment laissé le choix. Et sa rédaction.
Attends, tu peux peut-être essayer de défendre ta carte de
sa rédaction en chef a dit on obtient une interview, tu vas faire l'interview. Et c'est comme ça, on fait un coup de médiatique et basta. Et le journaliste, bon.
Déjà, faut y aller. C'est pas sûr de revenir.
Il est prêt à parler à tout le monde pour dire ce qu'il veut.
Pour parler un peu de tennis, on a quand même pas berlé Bézev, nos Français. Mais bon, je dis ça, je dis rien.
Mais il.
Comment ça, mais. Non, mais depuis le carrément tennis de la semaine dernière, on n'avait plus une oreille nouveau à dire.
On ne parle que de Nadal.
Mais c'est pas vrai, mais. Si vous aviez participé à carrément tennis la semaine dernière, on a fait une demi-heure sur Bartoli.
Le futur vainqueur de Wim, je vous donne le nom, c'est Lucas Rossol.
Bien sûr. En double. Est-ce que Marion Bartoli peut faire une finale à Wimbledon?
Non, mais t'as bu ou quoi?
Non, mais je sais pas s'il est dans le tableau, mais je pense qu'il peut faire
quelque chose. Non, mais soyons sérieux. Il faut qu'il est sparring, il joue à Rangi Park.
Non, non, mais il doit être dans le tableau. Avec sa performance à Roland, il doit être dans le tableau.
Mais non, parce qu'à Roland,
c'est 6 semaines avant.
L'année où Marion fait un 8ème à Roland, c'est l'année où elle fait finale à Wim. Maintenant qu'elle a fait une demi à Roland, va-t-elle aller gagner Wimbledon?
Est-ce qu'on peut parler sérieusement?
Vous voulez qu'on joue au prono là?
Ouais, prono.
Non, je pose une question.
Non, moi je veux le tableau avant.
Non,
pareil. Moi, tant qu'il n'y a pas le tableau, je dis rien.
Oh, les petits machins.
Moi, je dis Rafa.
Dis-nous Roger, Benoît, vas-y.
Alors, vainqueur de Wimbledon 2011, Andy Roddick.
Oh, c'est toi, malheureux.
N'importe quoi, attends, t'as vu comment il joue? Tu l'as vu jouer?
Andy Murray en finale. Le glouglou. S'égorge sur le court en perdant contre
Andy Roddick. T'as vu comment il joue, Roddick, là? Il joue
Non, mais là, ça fait peine. Hein.
Mais Roddick, il arrête sa carrière dans pas longtemps. Bon, c'est non, tout, les autres pronos, non?
Et chez les filles, Vénus. Moi, j'aimerais bien que Vénus ait gagné.
Ça serait beau, la 6ème, ce serait.
Vénus, Trophée Institute à Wimbledon.
Moi, j'aimerais bien Sharapova, j'ai un mec qui aurait gagné.
Vénus contre Maria, Remember, Revival.
Allez, rendez-vous dans un peu plus de 3 semaines pour Wimbledon. D'ici là, on vous souhaite une très bonne fin de semaine à l'écoute d'RTL, l'équipe.
RTL l'équipe, carrément tennis. RTL l'équipe, la radio sport et info.